La 29e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants se tient depuis le 5 février et ce jusqu'au 11. Le thème est « Chaque jour, on mesure l'importance de votre rôle ». Et André Lacombe, vous avez eu la bonne idée de nous offrir une chronique mots avec l'éducation et le savoir comme thème. Donc, allons-y donc, allez-y donc avec quelques mots associés aux établissements d'enseignement d'abord et avant tout.
Ben oui, on va commencer avec le mot « école », hein, dans le mille, comme on dit. Utilisé en français depuis le 11e siècle, puis le sens d'école depuis ce temps-là n'a pas vraiment changé. On parlait déjà à ce moment-là d'un établissement où l'on donne un enseignement collectif. C'est un mot qui nous vient du latin « scola », qui veut dire « loisir studieux », »,« leçon » et « lieu où l'on enseigne ». Mais moi, « loisir studieux », là, ça vaudrait la peine de faire une petite recherche sur les mœurs des Romains dans l'Antiquité pour comprendre,
apprendre
davantage là-dessus. Ben oui, loisir studieux, je trouve ça intriguant.
Mais c'est bien d'aimer l'école
Et
de prendre ça comme un loisir.
Absolument.
Collège, maintenant.
Oui, utilisé depuis le Moyen Âge, mais ça désignait à ce moment-là uniquement un groupe de personnes issues d'une même confrérie, à commencer bien sûr par les confréries religieuses à cette époque. Le sens élargi au-delà du religieux est toujours utilisé quand on parle, par exemple, du Collège des médecins. Je trouve que c'est un bel exemple dans ce sens-là, une confrérie. Pour ce qui est du sens lié à l'établissement, il apparaît au 15e siècle. Il désigne alors un lieu pour enseigner les lettres et les sciences.
Eh bien, maintenant, quand on parle d'études collégiales, on pense aussi à nos fameux cégeps.
Absolument, ouais. Bien sûr.
Et après le cégep, ou en tout cas le collège, l'université?
Ah oui, on continue la montée en grade, hein, avec l'université issue du latin « universitas », qui signifie « corporation » ou « association ». C'est un mot qui est né de l'expression médiévale « universitas magistrorum et scholarum ». Donc, on a abrégé, puis on a gardé juste « universitas ». Ça désignait à ce moment-là le corps des professeurs et des élèves. Mais à peu près à la même époque, on voit apparaître le sens qui désigne également l'établissement ou le lieu physique de l'université.
Le corps des professeurs et des élèves.
Oui.
Ah bien.
Absolument.
Ah bien.
Le corps enseignant, okay. Vous avez sûrement déjà
entendu. Oui. Très bien. Maintenant, une université de prestige, la Sorbonne.
Oui, la Sorbonne, fondée à Paris au 11e siècle par le théologien français Robert de Sorbon, hein, qui a donné son nom à l'établissement. C'était, à cette époque-là, un collège d'études théologiques, devenu au 19e siècle, le siège de trois facultés universitaires, soit théologie, lettres et sciences. Et depuis, je pense que ça s'est élargi,
oui.
Là aussi.
Et Académie, vous ne parlez pas ici du restaurant Apportez votre vin? Là.
Non, pas du tout. Je parle de l'original. Issu du grec « academia », qui désigne le lieu où Platon a fondé son école de philosophie à Athènes. Il y a quand même un certain temps, hein, 367 avant Jésus-Christ,
ouais.
Mais on parle encore de Platon de nos jours, donc ça a dû être marquant, n'est-ce pas? C'est l'endroit se trouvait près du tombeau du héros Académos, d'où le terme « academia ». Académos a littéralement sauvé Athènes lors d'une guerre. Alors, tous les usages modernes du terme « académie » ont pour origine l'institution de Platon, qu'on parle d'un lieu d'enseignement avancé ou d'une société savante, dont les membres se consacrent bien sûr à la philosophie, mais aussi aux lettres, aux arts ou aux sciences.
Maintenant, André, vous nous faites découvrir quelques mots reliés aux personnes dans cet univers du savoir.
Oui, en passant, merci à une autre source précieuse pour mes chroniques sur les mots, soit le site web français lalanguefrançaise.com. C'est un site sur l'usage du français où on retrouve des définitions, des informations sur l'étymologie des mots, etc., etc. Bref, c'est très complet et c'est une bonne source pour mes chroniques.
lalanguefrançaise.com, allez aux intéressés.
Oui, tout à fait. Alors, maintenant, les mots reliés aux personnes. Si on parle des diplômés, soit des gens qui ont décroché leur diplôme, le mot « diplôme », pour désigner un grade qui atteste les connaissances et les aptitudes de quelqu'un, cette forme-là existe depuis le 19e siècle, mais c'est un mot qui est beaucoup plus ancien parce que depuis l'Antiquité, le diplôme désignait toute pièce officielle émise par une autorité souveraine et qui établissait un droit ou un privilège. À cette époque-là, le document était plié en deux et scellé, d'où la syllabe « dit » de « diplôme ».
Ah bon?
sais pas s'il y avait des uniplômes aussi, mais on parlait de diplômes, donc.
Qui remonte à l'Antiquité.
L'Antiquité, quand même. Hein?
Et le docteur ou la docteur, c'est la personne qui reçoit un doctorat? Ouais,
absolument, mais avant ça, on parlait uniquement de docteur. En fait, au 11e siècle, ça désignait tout simplement un savant ou un érudit. Le sens lié à docteur qui désigne un grade universitaire est apparu à partir du 14e siècle, pour parler plus spécifiquement de la médecine. Mais à partir du 16e siècle, effectivement, on l'a remplacé par doctorat. Voilà. D'accord. Avant, on disait docteur. Il faudrait cependant attendre au 19e siècle pour que l'usage de docteur afin de désigner un médecin entre dans le langage populaire.
Mm-hmm. Il ne faut pas mêler les pinceaux, là, parce qu'il y a des personnes qui se prémunissent du qualificatif, du terme docteur.
Oui, docteur en philosophie, docteur.
Mais c'est ça, ils ne sont pas médecins,
absolument,
nécessairement.
Mm-hmm.
D'accord. Sommité.
Oui, ben, il y a des chances que le ou la docteur soit une sommité, hein, soit une personne éminente dans son domaine. Cette définition de la sommité existe depuis le 19e siècle. Je serais tenté de dire seulement depuis le 19e, car le mot existait depuis le 14e siècle pour désigner l'extrémité d'une plante ou d'une tige.
Ah oui.
Et c'est toujours admis par le Robert, cette définition-là de sommité.
Ah. Et qu'on s'enrichit, hein? On enrichit notre vocabulaire, hein, Mathieu?
Bien sûr.
Génie, c'est ce qu'on va devenir,
génie,
grâce
oui.
à André, un jour.
Oh, quand même. C'est pas juste une question de savoir, le génie, hein, mais c'est quand même
le
très
talent.
Relié, mais il y a une part de talent. Puis on a reconnu ça dès le 17e siècle, parce qu'on disait, à cette époque-là, le génie, que ça signifiait une aptitude particulière accompagnée d'une grande puissance créatrice. Mais rapidement, par extension, on dira ensuite un génie, pour nommer la personne qui possède l'aptitude en question. Hein, un ou une génie, mais évidemment, à l'époque, on disait un génie seulement, malheureusement. Le sens le plus ancien du mot génie est cependant complètement d'un autre ordre, hein, parce que dans la mythologie de plusieurs sociétés anciennes, ça référait à un esprit ou un démon incarné dans un personnage fantastique, comme le génie qui sortait de la lampe d'Aladin. Là. Alors, selon l'origine, on parle soit de djinn, D-G-I-N-N-S, et non G-I-N, n'est-ce pas, en Arabie, hein, c'était les djinns, de sylphes chez les Celtes, ou d'ondine chez les Germains.
D'ondine.
D'apostrophe,
oui, oui,
ondine
oui.
chez les
Alors,
Germains.
Alors, on aime bien se faire dire qu'on a quelque chose de génial en nous. On aime c'est mieux bien. Se faire traiter de génie que de sans génie.
Oui, oui, ou de cancre. Hein?
Oui.
Ah, c'est pas un beau mot. Hein? Les cancres, c'est des mauvais élèves ou des élèves paresseux, si on le prend selon la définition du dictionnaire. Et c'était le cas, semble-t-il, de Thomas Edison. Hein, personnage illustre qui a inventé l'ampoule électrique, entre autres choses.
Des fois, la paresse, hein, ça peut générer beaucoup d'idées.
Absolument. Et notre ami Edison, on dit que c'était un élève distrait, brouillon, hyperactif, hein, un TDAH qu'on dirait de nos jours. Et pourtant, il dévorait tous les livres qui lui tombaient sous la main. C'était un autodidacte. Alors, il n'était pas fait pour l'école, mais c'était un génie. Si on parle de génie.
Alors, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein, être cancre.
Non, ben non, effectivement, c'est quand on ne va pas dans le moule, on ne fit pas dans le moule en bon québécois.
Mais fité, ça vient d'où, ça?
Fité, mon Dieu, un bel anglicisme ce matin. Moi, je pense que nos auditeurs ont compris aussi.
Oui.
Alors, le mot cancre, c'est très chargé négativement. Ça a la même racine latine que cancer, hein? Et le mot latin, c'est littéralement cancer, C-A-N-C-E-R. Qui a également généré le mot chancre.
Le chancre mou.
Le chancre mou. Ulcération des chairs.
Ah ouais.
Répugnant. Alors, avant de terminer, j'aimerais partager deux devises inspirantes qui proviennent du milieu de l'éducation. Hein, parce qu'on sait que la plupart des établissements d'enseignement de haut niveau ont une devise, souvent en latin.
Vous allez faire comme Bernard Landry.
Je vais faire un petit peu de Bernard Landry en terminant. Alors, de l'université Next. England en Australie, ex sapientia modus, ce qui signifie avec la connaissance et la sagesse via la mesure en toute chose.
Hein, c'est bien c'est dit, sage. Ça. Est-ce que vous avez étudié le latin, André?
Non.
Non.
J'ai quelques bribes au secondaire, mais
c'est
pas...
trop jeune pour avoir fait votre cours classique.
Un petit peu trop jeune, un petit peu trop jeune. Et plus près de nous maintenant, de l'université Bishop à Lennoxville, tout près de Sherbrooke, Une devise.
Une belle université.
Oui. Un beau campus. Une devise à la fois inspirante, mais que je trouve aussi un petit peu rigolote, qui dit « Recti cultus pectora roborant ».
Oh!
Ce qui signifie « des études rigoureuses affermissent l'esprit ». Hein, c'est des paroles à viser.
Eh bien! On garde ça en mémoire.
On garde ça en mémoire.
Donc, ex sapientia modus.
Oui. Et rectis cultus pectora roborant.
Pour des études rigoureuses, affermissent l'esprit. C'est bon, ça.
Oui.
Merci beaucoup, André.
Merci,
Passez une belle semaine.
Bonne
et
semaine.
On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
Mais oui, bye-bye.